votre grand journal du soir avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Faire attention aux gestes barrières, mais il faut surtout garder cette bienveillance auprès des enfants pour pouvoir les rassurer aussi, pour pouvoir bien les accompagner et surtout ne pas les stresser.
Demain, les élèves seront en classe. Plus d'un million vont y faire leur retour. Dans le Nord, les enseignants se sont préparés avec des professionnels de santé.
Quelle sera l'affluence dans les transports? Inquiétude sur une fréquentation qui pourrait augmenter quand même dans les jours à venir.
À suivre, les héros de l'hôpital demandent toujours des moyens. Les soignants relancent leur mobilisation. Et le rapport du conseil scientifique sur la tenue des conseils municipaux élus dès le premier tour au mois de mars.
Et dans ce journal de 19h allongé, on se projette sur demain. Demain en France, comment rouvrir les hôtels?
Et demain dans le monde, la contestation qui reprend à Hong Kong. Le casse-tête de la Ligue 1 de football. Faut-il repêcher les clubs relégables et garder tout le monde en Ligue 1? Amiens, notamment, envisage un recours.
Et après les sports, le temps, Anissa?
Avec beaucoup plus de calme demain dans le ciel au-dessus de la France. Attention, nous avons toujours deux départements placés en vigilance orange, pluie et inondation. Ça se passe dans le sud-ouest et je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Une remise en marche qui se présente bien. Voilà ce que disait sur Europe 1 ce matin le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Mais ce retour des élèves en classe dès demain continue d'inquiéter à la fois parents et enseignants. Aujourd'hui, les professeurs des écoles tenaient leur pré-rentrée et dans le Nord, à Orchies, ils ont même reçu la visite d'une association de professionnels de santé pour apprendre les bonnes pratiques. Reportage de Lionel Gougelot.
Devant l'équipe enseignante, démonstration et conseils pratiques de Caroline, l'infirmière, pour le port du masque.
Au-dessus du nez et en dessous du menton. Et une fois que le masque est mis, on n'y touche plus. Si vous ne l'avez utilisé que trois quarts d'heure, vous essayez de l'enlever sans toucher bien sûr le devant du masque. Et pour le reprendre, vous le reprenez par les deux lanières également, sans jamais toucher le devant.
Pour ces enseignants de grande section de maternelle, la difficulté avec les enfants, ce sera le respect des gestes barrières.
On a tous des craintes sur l'application de la distanciation sociale permanente sur la journée. Est-ce que là-dessus, vous avez des conseils à nous donner?
Il ne faut pas non plus tomber dans la psychose, mais je pense que c'est le bon moment pour amener les enfants justement à ces bons gestes de lavage de mains, des choses comme ça. Je pense qu'il faut vraiment tout miser sur le lavage de mains avec les enfants.
Dédramatiser tout en restant vigilant, c'est le message du docteur Sylvain Durier.
Faire attention aux gestes barrières, mais il faut surtout garder cette bienveillance auprès des enfants pour pouvoir les rassurer aussi, pour pouvoir bien les accompagner et surtout ne pas les stresser.
Stéphanie Lemaignan, directrice de l'école Salengro.
Ce qui nous angoisse le plus, c'est finalement l'angoisse de nos petits. C'est comment ils vont réagir, comme le disait le médecin, avec nos masques, avec nos nouveaux dispositifs. Mais on va tout faire pour les accompagner, pour les sécuriser sur le plan affectif.
Et dans les prochains jours, les professionnels de santé reviendront dans l'école pour sensibiliser cette fois les parents d'élèves aux gestes de prévention. À Orchies, Lionel Gougelot, Europe 1.
Voilà, 86% des écoles doivent rouvrir pour accueillir plus d'un million et demi d'élèves en maternelle et en primaire.
Et l'autre aspect sensible de ce déconfinement, ce sont évidemment les transports, en particulier en Île-de-France, où l'on a vu des métros et des RER bien trop remplis tôt ce matin.
Et même si le port du masque est globalement bien respecté, la crainte, Aurélien Fleureau, c'est que la fréquentation continue d'augmenter dans les prochains jours.
Oui, puisque si les opérateurs de transport sont globalement soulagés ce soir parce qu'il y avait pas mal d'incertitudes sur cette reprise aujourd'hui, ils savent bien que demain, par exemple, il y aura plus de parents dans les transports parce que les écoles vont rouvrir, que les salariés qui retournent au bureau un ou deux jours par semaine ont plutôt préféré éviter d'y aller aujourd'hui. Donc pour répondre à ces images de trains bondés tôt ce matin, la SNCF a décidé de rajouter trois trains sur les RER B et D sur le réseau Paris-Nord parmi les tout premiers départs de la journée et puis d'organiser différemment le flux de voyageurs. Donc on peut imaginer un petit peu plus de filtrage, plus de temps d'attente avant d'accéder à un train. Et c'est d'ailleurs parce que beaucoup de salariés avaient anticipé ce matin en partant très tôt de chez eux que ces premiers trains se sont vite remplis. Mais tout de même, la SNCF, qui vient de dresser le bilan de cette journée, souligne que 97% des Transiliens, les trains de banlieue parisienne, avaient une faible affluence et que le respect de la distanciation a été possible dans la grande majorité des rames partout dans le pays, avec seulement 15% des voyageurs habituels à bord des TER et 10% dans les TGV.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. On a vu aussi des files d'attente se former aujourd'hui devant des magasins, notamment devant les boutiques des grandes chaînes de prêt-à-porter.
Et le visage de nos villes a changé aujourd'hui, en cette première journée de déconfinement, avec la réouverture des commerces, des coiffeurs, des librairies. La vie a repris.
Et souvent avec ce masque obligatoire, même si les villes ne peuvent pas l'imposer partout. À Nice, par exemple, il ne sera finalement obligatoire que dans les rues les plus fréquentées.
La loi qui prolonge l'état d'urgence sanitaire, validée hein, tout à l'heure par le Conseil constitutionnel, mais avec des réserves.
Oui, on sait que la procédure a pris 24 heures de retard. Les sages censurent hein, finalement des éléments liés au traçage et à l'isolement des malades. Deux censures partielles pour limiter par exemple le nombre de personnes pouvant avoir accès aux données qui seront stockées et également pour qu'un juge des libertés puisse effectuer un contrôle si le malade ne peut pas sortir plus de 12 heures de son lieu d'isolement. Pendant ce temps, les soignants eux, sont toujours mobilisés pour prendre en charge les milliers de malades toujours hospitalisés et même si la pression est redescendue, le manque de moyens est toujours pointé. Les revendications d'avant la crise ne sont pas éteintes, au contraire.
À Toulouse, justement, les personnels hospitaliers se sont rassemblés aujourd'hui pour des manifestations respectant les distances, hein, Benjamin Peter.
Oui, on avait un peu perdu l'habitude, hein, 500 personnes réunies au même endroit. Je peux vous dire que ça fait drôle, des soignants bien sûr en blouse, mais également beaucoup de militants, des gilets jaunes aussi, tous masqués, même si la distance physique n'était pas toujours strictement respectée, au point qu'il a fallu faire quelques petits rappels à l'ordre.
Écartez-vous bien, montrez-leur qu'on peut faire des manifs sans se contaminer les uns les autres, je compte sur vous.
Parmi les manifestants, Lucien est venu tout simplement apporter son soutien.
C'était bien d'applaudir tous les soirs, je l'ai fait dans mon soir, mais après ça devient un peu un rituel et là quand même c'est un geste plus fort je pense pour tous ceux qui sont là de venir.
L'une des revendications c'est le manque de matériel de protection et notamment des masques pour Pauline Salang de la CGT.
C'est terrible parce que c'était pas qu'au début, ça continue. Alors à l'heure où on parle, des masques sont en vente libre dans les supermarchés, des masques chirurgicaux et même des masques FFP2. Nous depuis quelques jours à l'hôpital dans de nombreux services, ce sont des masques non médicaux qui sont distribués au personnel de soignants. C'est intolérable de travailler dans ces conditions.
Et eux réclament davantage de personnel et la réouverture des services et des lits qui ont été fermés ces dernières années.
Le reportage de Benjamin Peter à Toulouse, correspondant d'Europe 1 en Occitanie. Les conclusions de deux enquêtes révélées sur l'épidémie qui a frappé le porte-avions Charles de Gaulle. Un millier de marins avaient été contaminés, un tiers de l'équipage. C'est la ministre des Armées elle-même qui en a détaillé le contenu devant les députés. Elle pointe notamment l'excès de confiance du commandement de la marine qui a levé trop tôt des mesures de confinement à bord.
Et puis le parquet de Paris ouvre une enquête visant l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, une enquête pour agression sexuelle. L'ancien dirigeant, âgé aujourd'hui de 94 ans, est mis en cause par une journaliste allemande. Les faits remontent à 2018.
Le confinement étant terminé, la question des élections municipales refait surface. Que sont devenus les conseils municipaux et donc les maires élus dès le premier tour au mois de mars? Eh bien rien du tout, ils n'ont jamais pu siéger et donc jamais pu être installés. Ça concerne tout de même 32 000 communes. Le conseil scientifique a émis des recommandations pour qu'ils puissent se tenir. Recommandations très strictes que vous vous êtes procurées, Adrien Beck.
Oui, en laissant au gouvernement la responsabilité d'organiser ou pas ces installations. Alors, pour ce qui est des règles, hein, extrême prudence. D'abord, un conseil municipal à huis clos, sans public, sans presse. Des conseillers municipaux qui devront disposer chacun de 4 mètres carrés. En clair, les mairies peuvent utiliser de plus grandes salles. Et puis, les conseillers municipaux les plus fragiles sont invités à voter par procuration. Pour les autres, masque de rigueur, stylo personnel, dépouillement réalisé par une seule personne. Cet avis du conseil scientifique avait été demandé par Édouard Philippe la semaine dernière car le Premier ministre veut aller vite pour permettre aux conseils municipaux élus le 17 mars de s'installer. C'est une demande de l'opposition, notamment de droite, mais aussi des maires. Certains espéraient raccrocher, d'autres ont été battus et tous ont finalement été obligés de prolonger en pleine situation de crise.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
Les sports et l'arrêt de la Ligue 1 de foot continuent de faire débat. L'ancien entraîneur du PSG, Antoine Comboiré, a lancé une bombe. Hier, c'était sur notre antenne, sur Europe 1. Il appelle les joueurs à faire grève.
Et pour protester contre la relégation en Ligue 2 des deux derniers du classement, Amiens et Toulouse, alors qu'ils n'ont pas pu disputer tous leurs matchs jusqu'au bout. Cyril de la Morinerie, il demande à garder tout le monde en Ligue 1 en fait, pour faire une saison à 22 clubs. C'est faisable ?
Alors, un championnat à 22 équipes, techniquement, c'est faisable. Notre consultant à La Roche le rappelait dans le journal à midi, la Coupe de la Ligue va disparaître, cela va alléger le calendrier, c'est 4 dates en moins. On peut aussi réduire la trêve hivernale pour jouer plus de matchs. Amiens, qui a lancé une pétition, défend évidemment cette solution. Gérard Rouillet, conseiller de Jean-Michel Aulas, interrogé hier dans Europe 1 Sport, est aussi de cet avis pour éviter toute injustice. En revanche, l'appel à la grève lancé sur Europe 1 par Antoine Camboiré a peu de chances d'être suivi, estime Alain Roche.
L'objectif d'Antoine Camboiré était de réveiller un peu les consciences chez les joueurs, les entraîneurs, voilà, de leur dire que vous aussi vous auriez pu être dans la même situation et qu'il faut réagir. Quand on parle de solidarité, ben, faut montrer aussi de la compassion pour les gens qui sont en difficulté. La grève, c'est toujours le dernier recours, c'est l'action qu'on met en place quand une profession est en danger, ce qui n'est pas le cas. Hein.
Le syndicat des joueurs que j'ai joint va étudier cette proposition. Mais s'il y a grève, prévient son président Philippe Piat, ce ne sera pas pour défendre Amiens, mais pour changer la gouvernance du football français. Rappelons qu'en 1972, en France, l'ensemble des joueurs avaient refusé de jouer. Ils avaient obtenu, grâce à ce mouvement de grève, la mise en place d'une convention collective.
Cyril de la Morinerie, du service des sports d'Europe 1. Décidément, quel feuilleton, cette Ligue 1.
Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
À suivre dans votre édition de 19h, on continue de se projeter sur demain. Demain en France, quid de nos week-ends, de nos vacances, comment rouvrir les hôtels et quand. Et puis demain dans le monde, une fois l'épidémie passée, la mobilisation à Hong Kong, elle ressurgit.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, jusqu'à 20h sur Europe 1. 19h12 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Nouveau rendez-vous un peu plus tôt dans votre édition de 19h, demain en France, mais c'est toujours avec vous Jean-Pierre Montané. Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir Nathalie.
Et oui, la voix de Chris Isaac pour nous dire, évidemment, pour nous rappeler qu'on en a tellement envie.
Vous y voyez déjà en week-end, vous Nathalie.
Oui, un peu. Bon, toujours rien, on espère que ça va revenir un jour. Alors,
effectivement, frémissement encourageant m'a assuré Laurent Duc, le patron de l'hôtellerie française. 15% des 16 000 hôtels de France sont désormais ouverts. Et ce mouvement va monter en puissance jour après jour. L'interdiction d'ouverture qui pénalisait les hôtels des zones touristiques comme les Alpes-Maritimes, le Vaucluse est levée. Donc, c'est vraiment cette semaine le top départ pour toute la profession.
Alors, comment ça va se passer, Jean-Pierre? Il y a une charte qui a été mise en place, une charte sanitaire?
Oui Sébastien, mais figurez-vous, pas encore formellement validé par l'État, qui a beaucoup de travail, beaucoup de boulot, faute de temps. C'est une question de jour, m'a-t-on dit. En attendant, les établissements sont dans l'obligation de respecter et d'afficher ce protocole sanitaire élaboré par la profession, et pour leur personnel bien sûr, et pour les clients. Et ça veut dire notamment pas de restauration, mais un plateau petit déjeuner déposé au pied de la porte, pas de changement de drap, des chambres mises en jachère pendant 3 jours avant un nouveau client, et bien sûr gel, masque fourni pour la clientèle.
Alors vous avez pu joindre quelques hôteliers, vous, un peu partout en France, hein ?
Oui, un petit tour de France à Reims, par exemple. Antoine Renard-Dias, le directeur de l'Hôtel de la Paix, dont la précédente fermeture remontait à l'hiver de 1914. Eh bien, il a installé des stickers dans son petit ascenseur pour le respect de la distanciation. Il va accueillir enfin ses premiers touristes ce week-end, qui auront fait moins de 100 km, bien sûr. Pas de touristes, en revanche, à La Charpinière, le 4 étoiles de Saint-Galmier, dans la Loire. Son patron, Franck Anderloni, ne veut pas les décevoir, sachant que ni sa table gastro, ni sa grande piscine ne sont encore accessibles. Le Barn-Hôtel, près de Rambouillet, dans les starting blocks, très fier de son protocole d'hygiène strict et de son label Excellence validé par le bureau Veritas, histoire de rassurer une clientèle qui devra porter le masque dans les parties communes. Serge Trigano, enfin, m'a confié que ses hôtels branchés, Mama Shelter, situés à Paris, Lyon, Lille, Toulouse, Marseille, rouvriront en même temps que ses restaurants, c'est-à-dire prochainement, sans doute.
Oui, c'est ça, le prochainement qui va bien, hein, parce qu'on n'a toujours pas de date, mais espérons, ça se rapproche. Merci beaucoup Jean-Pierre Montané, à demain.
Et on a à demain, Nathalie. Et on apprend ce soir qu'un plan de soutien, ce secteur sinistré du tourisme, est en préparation, un plan d'1,3 milliard. Demain dans le monde, à présent, bonsoir Didier François.
Bonsoir.
Direction Hong Kong ce soir, où la contestation renaît, vous l'entendez, suite à cet incident dans l'enceinte du Parlement. Les députés pro-chinois qui ont déclenché une bagarre, c'était vendredi, pour imposer leur candidate au perchoir de l'Assemblée contre le chef de file du mouvement pro-démocratie.
Oui, la guerre continue. Effectivement, ça a immédiatement remis le feu aux poudres avec des rassemblements de plusieurs milliers de manifestants qui jouent au chat et à la souris avec les forces de l'ordre depuis ce week-end. Les étudiants occupent à tour de rôle les centres commerciaux de la péninsule en chantant l'hymne du mouvement. Ils essaient également de bloquer à nouveau les routes et les carrefours avec des feux de poubelle ou des barricades. Et ils sont à chaque fois délogés par les unités anti-émeutes qui disent aujourd'hui avoir réalisé 230 interpellations. C'est le bilan le plus important en termes de répression depuis le début de l'année et ces mesures de déconfinement adoptées pour maîtriser l'épidémie de Covid-19 qui avait d'ailleurs mis les protestations entre parenthèses, mais qui visiblement n'avait pas fait disparaître l'attachement que porte la majorité des habitants de Hong Kong au respect de leur autonomie politique que leur avait promis Pékin lors du rattachement à la Chine en 1997.
Ah oui, alors les autorités pro-chinoises utilisent d'ailleurs toujours la menace, hein, au fond, la menace de la maladie pour tenter d'étouffer dans l'œuf la reprise du mouvement.
Oui, c'est évidemment un argument qui a été dégainé par le bureau de liaison. Alors c'est en fait l'œil, voire même la main du parti communiste chinois à Hong Kong. Ce à quoi, évidemment, les protestataires rétorquent qu'il n'y a plus un seul cas de contamination recensé sur la péninsule depuis 15 jours. Donc pour eux, l'exécutif prolonge à dessein les mesures de confinement pour réprimer leur mouvement. Et d'ailleurs, ils font remarquer que toutes les manifestations arrêtées ont été poursuivies et verbalisées pour non-respect de l'état d'urgence sanitaire qui interdit les rassemblements de plus de 8 personnes.
Ah oui, c'est ça. Merci beaucoup Didier François. On va suivre évidemment cette situation. Tout à fait, on va suivre cette situation là-bas avec vous à demain. La petite musique qui introduit Anissa, parce qu'on a besoin de savoir que demain ce sera le même temps ou pas ?
Oui, on aura encore un peu de pluie demain, mais ça sera beaucoup plus calme. Nathalie, c'est vrai qu'on a eu des heures très agitées dans le sud-ouest, sur la région parisienne, dans le nord-est, des orages très violents. Alors ça se calme, je vous rassure. Ce soir, nous n'avons plus que deux départements vigilance orange, pluie, inondation et crue. Il s'agit des Landes et du Tarn. Alors demain, sur le massif central des Alpes et la vallée du Rhône, nous avons encore quelques petites gouttes possibles le matin. Sur la moitié sud, le temps reste très nuageux, des nuages épais qui masqueront le soleil. Au bord de la Méditerranée, là, ça sera plus ensoleillé. Et puis au nord de la Loire, eh bien, c'est une journée très lumineuse, bien plus lumineuse que dans le sud. De la Vendée à l'Alsace, au nord de cette zone, hein, vous pouvez prendre la Loire aussi comme repère. Eh bien, au nord de la Loire, demain, c'est une belle journée ensoleillée. Les températures, elles sont froides demain matin, avec des gelées matinales au nord-est. Nous aurons 3 à 8 sur la moitié nord, 3 à Amiens, 5 à Paris et 8 à Dunkerque, 7 à 13 degrés au sud. Et puis au meilleur de la journée, il fait plus frais au nord qu'au sud. 11 à Dunkerque, 13 à Lille, 16 à Paris, 17 à Lorient et Biarritz, 20 à Perpignan et 21 degrés pour Marseille.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec votre interview.
Et quel avenir pour la justice ? Y a-t-il un risque de renoncer au principe de justice en ces temps de crise sanitaire ? Et l'après, comment se fera-t-il dans les prétoires ? Je reçois un avocat qui a le don de remettre les points sur les i. Éric Dupond-Moretti est mon invité dans un instant.
Et votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy. Et cette question, demain, quel avenir pour la justice ? Vous recevez l'avocat maître Éric Dupond-Moretti.
Bonsoir maître, merci d'être ce soir en direct avec moi sur Europe 1. Bienvenue.
Allô ?
Vous m'entendez ?
Bonsoir madame.
Bonsoir,
oui,
et bienvenue.
Très bien, oui.
Alors vous avez signé hier dans le Parisien une tribune pour alerter sur le risque de renoncer au principe de justice en ces temps de crise sanitaire. Il est bon d'y revenir pour regarder demain, bien sûr, demain ce que sera la justice. D'abord pourquoi ? Pourquoi ce cri d'alarme ?
Parce que on maintient aujourd'hui en prison des gens qui ne sont même pas présentés à un juge. Les seuls qui peuvent priver un homme de liberté dans notre pays, c'est écrit dans notre Constitution, c'est les juges de l'ordre judiciaire.
Tous nos auditeurs ne sont pas au fait, pardonnez-moi maître, tous nos auditeurs ne sont pas nécessairement au fait. C'est pas légal, compte tenu de l'état d'urgence, de sortir un texte de loi qui autorise les juges à effectivement emprisonner
ces personnes. Ah non, emprisonner, attendez, je vais essayer d'être clair pour vos auditeurs. En France, personne ne peut détenir un homme, sauf un juge, de l'ordre judiciaire et dans des conditions particulières. D'accord, sinon ça s'appelle une séquestration et c'est un crime. Qu'est-ce qu'on a envisagé dans cette période de crise ? On a envisagé que on pouvait maintenir en détention des gens qui n'étaient même pas présentés à un juge.
Un juge.
Voilà. Et depuis ce que l'on appelait la loi des suspects de 1793, on n'a jamais fait ça dans notre pays.
Aujourd'hui,
ça va même plus loin. À Marseille, par exemple, un tribunal correctionnel a condamné à 3 ans ferme un homme qui n'a pas été présenté, à raison du Covid, qui n'a pas été présenté par visio-vidéoconférence, et qui n'avait pas d'avocat.
Pourquoi la visioconférence n'a pas été utilisée, maître? Parce que...
Faut le demander à cette juridiction.
Mais par exemple, vous, est-ce que vous avez tenté, pour certains de vos clients, avec la puissance qu'on vous connaît, est-ce que vous avez essayé, par exemple?
Mais c'est pas une question de puissance, c'est la moindre des choses qu'un homme soit présenté à son juge. Qu'est-ce qu'on a fait ici?
Et la visio a été refusée?
On a permis à des juges, de maintenir en détention sans qu'il y ait même une présentation, sans que les droits de la défense s'expriment.
Et la visioconférence a été refusée, maître?
Non, elle n'a pas toujours été refusée. Je dis à des juges, je ne dis pas à tous les juges. Mais ça pose aussi d'ailleurs la question de l'indépendance, puisque c'est une ordonnance du ministère de la Justice. Et certains juges s'y sont opposés en disant « mais là, on est en train de bafouer nos principes ».
Combien y a-t-il de cas, vous savez, aujourd'hui, maître Dupond-Moretti, combien y a-t-il eu de cas comme cela?
Ah mais ça, on le saura. Non, moi, je j'ai aucun moyen, aucun appareil de mesure. Mais ce que je sais, c'est que des décisions ont été prises sans que l'intéressé soit présenté au juge, sans que son avocat soit présent, et sans même qu'on puisse le voir par le truchement de la visioconférence. Voilà, c'est d'une arrogance judiciaire absolument insupportable. C'est contraire à tous nos principes.
Et pour vous, c'est la porte ouverte à d'autres dérives, maintenant qu'on est déconfiné? C'est-à-dire?
Bien sûr. Ben, je vais vous donner un autre exemple. Le procureur général de Paris a lancé l'offensive pour que maintenant, en cette période de Covid, en utilisant le Covid, on puisse composer des cours d'assises sans juré. Voilà, on y est. Or, le jury populaire, c'est une bouffée d'oxygène dans le corporatisme des juges. Et puis d'ailleurs, la justice est rendue au nom du peuple. Donc, il y a quelques bonnes raisons pour que le peuple participe à l'élaboration de cette justice. Eh bien, on a viré les jurés, on est en train de le faire. Ça, c'est un projet qui est fait par laissez-moi, s'il vous plaît, qui est fait par les juges pour les juges. Parce que les projets qui sortent de la chancellerie, c'est des projets qui sont préparés par des juges. C'est pas des énarques qui préparent ces projets-là. C'est des
Dans une situation extrême, une situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, non?
Mais pourquoi mesure exceptionnelle? Pardonnez-moi, on peut très bien envisager de juger des gens avec des conditions sanitaires respectueuses de la santé des uns et des autres. Ça se fait dans un tas de lieux, non? On peut aller au supermarché, que je sache. On pourrait très bien envisager des salles d'audience qui soient aménagées. Bon, d'ailleurs, il y a des juridictions où ça va se passer comme ça. Mais la tentative est forte, si vous voulez. Je vais vous dire, c'est une période funeste pour les avocats. D'abord, on a supprimé le secret professionnel. Ensuite, il y a cette histoire de la retraite. Vous savez combien de cabinets d'avocats vont laisser leur peau dans cette histoire du Covid parce qu'on n'a pas pu travailler? Sans doute aux alentours de 25 000. Et vous avez des magistrats qui ne peuvent plus voir les avocats, je dis bien certains, et qui ont profité de cette situation pour montrer leur toute puissance.
Eh oui, maître Dupond-Moretti,
à 3 ans, sans le présenter, sans avocat, c'est bien la démonstration de ce que pour certains magistrats, les avocats sont totalement inutiles.
Vous voyez plaider avec un masque, maître Dupond-Moretti?
Mais je ferai ce qu'on me dira de faire. Écoutez, il vaut mieux plaider avec un masque que de ne pas être invité à la table judiciaire et que de ne pas participer au débat judiciaire. Voilà.
Qu'est-ce que vous pensez de la solution présentée par le procureur de Paris, Rémy Heitz, qui entend classer sans suite un tiers des 4000 dossiers en correctionnel annulés pendant le confinement?
Écoutez, il y a 10 000 détenus qui ont recouvré la liberté un peu plus tôt que prévu. Ce sont des gens qui ont été jugés en phase d'exécution de peine. C'était absolument nécessaire parce que les prisons auraient explosé. C'est le confinement dans le confinement que les prisonniers ont dû vivre. Je pense aussi d'ailleurs, j'ai une pensée pour eux, au personnel pénitentiaire. Quand même savoir, vous souvenez qu'au début, le gel hydroalcoolique était interdit. On avait peur que les prisonniers se saoulent, c'était ridicule. Ensuite, il y a eu des privation de parloir, et donc les prisonniers n'ont pas vu leur famille. Ces gens-là se sont tenus, que je sache qu'il n'y a pas eu de mutinerie en France. Voilà, ils ont tenu avec beaucoup de dignité. On en a sorti quelques-uns. Moi, j'aurais souhaité d'ailleurs que le président de la République renoue avec cette tradition républicaine
de la grâce présidentielle,
de l'amnistie, bien sûr.
Pourquoi, maître?
Elle a répondu, Nicole Belloubet. Ça permet parfois de juguler la surpopulation carcérale. C'était, moi j'ai connu ça évidemment, puisque j'ai prêté serment en 84, la loi d'amnistie du 14 juillet, elle était attendue par tous les détenus. Et on remettait en liberté ceux qui étaient en fin de peine, ceux qui avaient été condamnés à des atteintes aux biens. Enfin, c'était
la ministre de la Justice avait dit non, très vite. Nicole Belloubet, elle avait répondu non catégoriquement. Dites-moi juste une seconde, maître, je fais le pas de côté. Maître Dupond-Moretti, parce que vous êtes aussi un homme de scène désormais et vous étiez à la barre au Théâtre de la Madeleine notamment. Je me posais cette question, est-ce qu'il faut un état d'urgence du monde de l'art pour le monde de l'art?
Écoutez, d'abord, c'est pas à ce titre-là que vous m'avez invité, mais je vais quand même répondre
oui,
à votre question.
Oui, mais c'est le pas de côté.
Ouais. Oui, le monde de l'art est sinistré, bien sûr.
Et bien il sûr. Faut un état d'urgence?
Vous savez, il y a des gens qui sont très touchés, je pense aux restaurateurs, je pense d'abord aux avocats, c'est le but de mon propos ce soir, hein. Je vous l'ai dit, il y a 25 000 cabinets d'avocats qui vont péricliter, je pense aux gens qui travaillent seuls, qui ont choisi l'exercice individuel, il y a évidemment les restaurateurs qui sont dans la perte sèche, il y en a plein d'autres, je veux pas les citer tous parce que je vais forcément en oublier, et dans le monde de l'art aussi, bien sûr, dans le monde du spectacle, il y a une véritable hémorragie, oui, par la force des choses, oui.
Merci beaucoup Maître Dupond-Moretti d'avoir répondu ce soir, et ce chiffre on le retient évidemment, 25 000 cabinets d'avocats qui sont en sursis et qui peuvent péricliter, c'est ce que vous nous dites ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Merci beaucoup.
Europe 1.
À suivre dans un instant sur Europe 1, Nathalie Lévy.
Et vous, cette première journée de reprise, comment se l'est-elle passée? On vous en parle évidemment juste après votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
Votre grand journal du soir, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. Il est 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Nathalie Lévy.
Sébastien Krebs, votre rappel des titres.
Au premier jour de ce déconfinement, une piqûre de rappel, l'épidémie n'est pas terminée. La mortalité repart fortement à la hausse ce soir. 263 décès ces dernières 24 heures, 26 643 au total. La pression continue en revanche de baisser doucement sur les services de réanimation. 64 malades en moins et 56 724 guéris. Le Conseil constitutionnel censure deux aspects du projet de loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire. L'un concerne le traçage des malades testés positifs pour limiter le nombre de personnes qui pourront accéder à ces données. Le second porte sur l'isolement des personnes contaminées. Tout le reste de la loi est validé par les sages. À retenir également ce soir, Valéry Giscard d'Estaing visé par une enquête pour agression sexuelle, enquête ouverte par le parquet de Paris après les accusations d'une journaliste allemande contre l'ancien président. Et puis la France prépare un plan Marshall pour le tourisme, 1,3 milliard d'euros d'investissement destiné à soutenir le secteur profondément touché par cette crise.
Merci Sébastien, vous revenez demain?
À demain.
Allez, merci à vous Anissa Le Temps.
Eh bien c'est encore gris demain, en tout cas sur la moitié sud du pays. Vous prenez la Loire comme limite et demain matin les nuages seront nombreux sur la moitié sud, sauf au bord de la Méditerranée où là le ciel est bien dégagé. Sur la moitié nord, c'est une journée assez ensoleillée. Pas assez ensoleillé pour faire remonter les températures qui seront encore assez fraîches demain avec des gelées matinales dans le nord-est. 3 à 8 degrés sur la moitié nord, 7 à 13 demain matin sur la moitié sud. Et puis attention, ce soir, nous avons toujours deux départements placés en vigilance orange, pluie, inondation. Il s'agit du Tarn et des Landes. Prudence. Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec vous, Nathalie Lévy. Et cette question, comment s'est passée votre journée? Quels enseignements pour demain? Vous l'attendiez ce 11 mai, il est là. Venez nous le raconter au 39-21. Vous avez la parole sur votre radio ouverte et sur Twitter avec le hashtag radio ouverte, évidemment.
Alors, on est avec Didier Matisse, entre autres, ce soir, secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire. Bonsoir à vous, bienvenue. Vous allez m'accompagner pendant cette demi-heure. Également Sophie Marino-Pounos, bonsoir également. Vous êtes psychanalyste, fondatrice des Lieux Solidaires, les pâtes au beurre qui viennent en aide aux familles en difficulté. Et on peut vous contacter d'ailleurs tous les jours, hein, de 9h à 21h pour un soutien pendant le confinement. Didier Matisse, Sophie Marino-Pounos, comment vous avez vu tous les deux cette première journée, chacun dans vos domaines? Didier Matisse d'abord.
Et les bonsoir, retours que vous en avez eu. Bonsoir. Donc pour la SNCF, cette première journée s'est relativement bien passée dans l'ensemble du territoire. Après, il y a eu quelques petits soucis, notamment sur le RER, mais qui est dû en fait aussi à des problèmes techniques et suite aux inondations et aux fortes pluies qui est tombée dimanche. Mais très globalement, le bilan est plutôt positif. L'intelligence collective a donc fonctionné et il n'y a pas eu de grosses difficultés sur l'ensemble du territoire.
Alors, ce qu'on verra dans un instant, c'est évidemment le jour d'après, dans les prochains jours précisément, comment la situation va évoluer. C'est un petit peu ce qui inquiète. Sophie Marinopoulos, la question, c'est évidemment l'état d'esprit des familles à la veille de la reprise de l'école pour un certain nombre d'enfants, plus d'un million d'entre eux, parce que les écoles, on est à peu près entre 80 et 85% sur l'ensemble du territoire. Et puis, ils ont repris le travail aussi, les parents, pour certains. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Comment vous appelle-t-on et qu'est-ce qu'on vous pose comme question ?
Alors les parents nous montrent une grande inquiétude, ils sont absolument pas sereins.
Ah oui.
On les sent aux prises avec une volonté, une envie de pouvoir sortir de chez eux, et en même temps on les sent extrêmement confinés dans leur tête, c'est-à-dire pris par la peur, pris par la méfiance, pris par cet inconnu qu'ils vont, ils vont pas retourner vers leur, vers quelque chose qu'ils connaissaient, ils vont partir vers quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Leur lieu de travail ne sera pas le même, l'école pour les enfants ne sera pas le même, et ils ont du mal parfois à trouver les mots justes d'ailleurs pour essayer d'expliquer aux enfants ce qui va se passer pour eux.
Ah oui, donc il y a vraiment, il n'y a pas comme cette espèce de hâte qu'il pouvait y avoir, d'être pressé finalement de sortir de ce confinement. C'est quand même plus le sentiment d'inquiétude qui s'impose. On va revenir vers vous dans un instant. On va en discuter aussi avec nos témoins. Franck, bonsoir. Vous nous appelez de Rennes. Bonsoir. Ce soir. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous dirigez-vous un cabinet de management. Vous avez ouvert aujourd'hui, vous avez repris le chemin du travail, et comment ?
Bah nous, on est déjà rouvert depuis quasiment 3 semaines, puisqu'en fait, les dirigeants nous appellent pour accompagner la reprise et puis pour les accompagner dans leurs enjeux de reprise.
Oui, et du coup, vous avez senti quel état d'esprit et quelles questions, quelles zones d'ombre, quelles envies ?
Alors en fait, c'est surtout les enjeux qu'ils, sur lesquels ils sont mobilisés, c'est d'abord la sécurisation sanitaire, sur laquelle, qui est un préalable impératif pour reprendre dans de bonnes conditions. Et puis les deux autres enjeux sur lesquels ils nous consultent, c'est la remobilisation du collectif, puisque après une période d'activité, il faut relancer la machine. Et puis également relancer les motivations individuelles. Donc travailler sur ces deux aspects, collectif et individuel.
D'accord. Et du coup, il y a quelques clés que vous pouvez nous livrer, peut-être sur Europe 1 ?
Alors, en fait, nous, la méthodologie qu'on a mise en place et qu'on préconise, c'est en fait de mettre en place un sas de reprise, qui est en fait un temps indispensable d'échange pour, avec le collectif, renouer le contact, parce que il y a eu des modes de travail, mais en dégradé, faire un bilan de ce qui a été fait pendant la période, également faire un point sur la situation financière, répondre aux questions, et puis surtout, ce sas permet aussi de dresser un nouveau cadre et des perspectives, c'est-à-dire quel plan sanitaire va être mis en place, et puis quel plan d'action, court terme également, sur lequel on va pouvoir remobiliser les équipes, qu'il faut relancer la machine.
Bien sûr. Merci beaucoup pour ces éléments que vous nous avez fournis ce soir, Franck, depuis Rennes. On va filer vers Clermont-Ferrand avec François. Bonsoir François. Vous êtes directeur d'école dans une petite commune à côté de Clermont. C'était la rentrée, la pré-rentrée pour les profs, pour les instits. Aujourd'hui, vous êtes prêt pour demain ? Vous êtes dans quel état d'esprit, vous ?
Plutôt dans un meilleur état d'esprit que ce matin, où on était plutôt dans l'inquiétude et dans le questionnement. Et puis,
c'est prof compris ?
Comment ?
On, c'est prof compris, enseignant compris ?
Oui, enseignant compris. C'est vrai que l'objectif, c'était surtout de lever les appréhensions et puis l'anxiété ambiante, et puis de montrer aux collègues enseignants, notamment, qu'avec la mairie, on avait commencé à préparer ce retour depuis une quinzaine de jours déjà, et que aujourd'hui, après une grosse journée de travail, on est prêt à accueillir, à accueillir les élèves demain, oui.
Bon, bonne chance pour évidemment ce retour demain à vos élèves. Merci à vous. Je retourne voir Didier Matisse et Sophie Marinopoulos. Didier Matisse d'abord sur les rails, parce que il faut se rendre souvent au travail via les transports en commun. Ce qui pose question aujourd'hui, c'est la prochaine semaine, parce que certains peut-être grattent un peu, ou en tout cas sont encore en télétravail pour ces jours-ci. Et puis sans doute à la fin du mois, on sera revenu à quasiment 100% des Français reparti au travail dans les bureaux, dans les entreprises, avec du coup cette question de, avec le système aujourd'hui et le nombre de trains qui sont sur les rails, est-ce qu'on peut tenir ?
Pour l'instant, le fonctionnement aujourd'hui a très bien fonctionné, et c'est dû donc à un ensemble de paramètres, et notamment une discipline qui était quand même assez forte au niveau des voyageurs. Maintenant, cette semaine va permettre un petit peu à tout le monde de se roder et de pouvoir monter en puissance la semaine prochaine en augmentant notamment le trafic. Aujourd'hui, on était à 60% sur le Transilien, 55% sur le TER, 35% sur le TGV et 25% sur les intercités. Ces chiffres vont augmenter de jour en jour pour justement offrir un plus grand espace au niveau des voyageurs afin qu'ils puissent reprendre le train de façon progressive également et maintenir toujours la distanciation sociale qui est obligatoire dans les transports en commun. On l'a vu ce matin, presque 99% des personnes qui se rendaient en gare étaient dotées d'un masque. Donc les gens ont compris que le virus est très dangereux et donc la peur fait beaucoup de bien à l'ensemble du fonctionnement.
Oui, avec aussi pour vos services, et vous allez nous le dire dans un instant, le nettoyage des espaces en gare, après évidemment, pendant, etc. Vous allez nous dire comment ça se passe dans un instant. On va évidemment vous redonner la parole, Sophie Marinopoulos, dans une petite seconde avec l'école Gros Enjeux pour demain, la reprise. Non pas la rentrée, mais la reprise, hein, terme employé par Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation. A tout de suite.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy. Votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe avec vous, Nathalie Lévy. Et avec toutes vos réactions en direct, n'hésitez pas à nous appeler au 3921 pour nous raconter votre 11 mai.
Oui, avec une rentrée déjà à La Flèche dans la Sarthe, une école privée, celle de Sainte-Colombe. C'était déjà la rentrée aujourd'hui avec des parents partagés, engagés quand même sur le protocole sanitaire. Et un retour en classe quand même plutôt morose d'après le directeur. Écoutons-le.
Habituellement, il y a tous les enfants qui sont joyeux. Là, pour le coup, ça faisait vraiment un effet bizarre de voir qu'une petite poignée d'élèves. C'était pas très très gai. On sentait bien qu'il y avait un peu d'appréhension chez les enfants. De voir le personnel, les enseignants, tout le monde masqué, ça leur a fait un petit peu drôle. J'ai fait un petit mot d'accueil pour leur dire qu'on était très contents de les revoir, évidemment, et puis leur expliquer un peu les gestes barrières. Le naturel revient très vite au galop, évidemment. Et puis les enfants, par définition, quand il est dans le jeu, il oublie tout de suite. Alors on leur rappelle, il faut trouver des jeux, voilà, qui ne demandent pas tout ça. Ça va s'organiser petit à petit. Hein. Ce matin, c'était un petit peu particulier, mais là, assez rapidement, ils reprennent quand même leur marque. On sent qu'ils se sont retrouvés quand même.
Voilà le témoignage de Jean-Luc Fouché, directeur de cette école privée Sainte-Colombe à La Flèche, dans la Sarthe, avec Charles Guyard pour Europe 1. On est en ligne avec Kevin. Bonsoir à vous, Kevin. Vous êtes sur Nantes et vous avez 3 enfants, si le compte est bon. Vous êtes également enseignant. Bienvenue. Alors, vous avez déjà pris la température aussi, mais en termes d'ambiance, j'entends, ce week-end.
Oui, c'est ça. On a... D'ailleurs, au niveau de l'école, là, tout est quasiment prêt, bouclé. On a bougé les tables ce week-end. Enfin, moi, je suis allé ce week-end parce qu'aujourd'hui, je pouvais pas y aller, comme je gardais mes 2 jeunes enfants qui étaient pas encore à l'école. Mais voilà, on a la mairie a mis en place des marquages au sol. Enfin voilà, tout est quasiment dans les starting blocks pour jeu. Alors nous, on reprend jeudi. Par contre,
D'accord, de battement. Et vous avez entendu le directeur de cette école dans la Sarthe qui était plutôt dans la morosité, même si voilà, les réflexes reviennent vite, heureusement le sourire revient vite, les jeux des enfants avec. Vous êtes un peu sur ce modèle-là en vous disant bah de toute façon, oui, on va très vite reprendre malgré tout le pli.
Oui, bah c'est vrai que je m'attends un peu, enfin ça me surprend pas l'ambiance en fait qu'il décrivait, parce que moi j'ai mes élèves que j'ai en visio régulièrement, en fait je sens beaucoup de questionnements, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'appréhension, beaucoup d'inconnus, parce qu'ils se demandent un peu à quoi ça va ressembler, quoi. Donc en effet, je pense que les enfants ont cette faculté de s'adapter à quasiment toutes les situations, et ils vont certainement trouver en une semaine, 2 semaines, je sais pas combien de temps ça prendra, mais ils vont prendre le parti de ça, mais ça sera quand même difficile.
Merci.
Je pense que ça sera difficile.
Alors on va demander justement, merci beaucoup Kevin et bonne rentrée à vous, on vous retrouve régulièrement sur Europe 1, merci de votre fidélité. Sophie Marinopoulos, vous êtes vous psychanalyste, évidemment il y a le conscient et l'inconscient, et particulièrement chez les enfants avec des gestes, des envies qui vont revenir, les copains, le chahut, etc., etc., ça c'est le positif, mais il y a quand même ces gestes et cette distance qu'il va falloir respecter. Est-ce que c'est de nature à quand même les perturber durablement ?
Oui, tout à fait. Alors, je vais mettre quelques bémols, du coup, à tout ce qui vient d'être dit, parce qu'on va pas très vite reprendre le pli. Non, c'est pas tout à fait ça qui va se passer. Et les enfants vont avoir besoin absolument qu'on pense à des gestes sanitaires psychiques. C'est-à-dire qu'on a bien entendu, et on l'entend encore beaucoup là, la sécurisation sanitaire, les traces au sol. Mais je n'entends rien de, mais comment on va leur parler? Comment on va être avec eux? Comment on va les amener à dire qu'on va continuer et qu'on va en effet trouver du plaisir à apprendre et à être ensemble? On c'est les adultes, les l'ensemble des adultes, les professeurs, les parents, tous les adultes qui les entourent. Et les enfants vont avoir tout particulièrement besoin, et ça c'est un geste sanitaire psychique, de pouvoir parler de leur coronavirus à eux. C'est quoi le coronavirus pour eux? C'est-à-dire que ça va demander aux enseignants, mais aussi aux parents, et c'est ce qu'on dit beaucoup aux parents qui nous appellent, ils ont besoin qu'on les laisse raconter. Ouais. C'est-à-dire que ouais. C'est pas l'enseignant qui va commencer à enseigner à l'enfant, c'est l'enfant qui va enseigner
à son
enseignant.
Est-ce qu'il y a des questions clés pour...
Comment vit le coronavirus? Ouais.
Alors c'est intéressant ce que vous dites. Est-ce qu'il y a des questions clés à poser aux enfants pour vraiment les faire démarrer, entre guillemets? Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour enclencher le dialogue et pour enclencher vraiment la
manière de raconter? Alors vous savez, les enfants, ils dialoguent. Il dialogue avec des expressions, donc le chant, la danse, le dessin, les devinettes, tout est support à la création et au discours et au récit pour les enfants. Donc d'accord. C'est vrai que c'est une transformation de notre part, mais il va falloir qu'on se transforme et on ne pourra pas balayer comme ça les choses en disant « Non mais les enfants, ils vont très vite retrouver le plaisir d'être ensemble ». Non, ouais. Les enfants, ils vont vous observer, ils vont vous décrypter, ils vont essayer de comprendre comment et où vous avez peur pour savoir si oui ou non vous êtes un adulte solide sur lequel d'accord. Il peut s'appuyer. C'est ça qu'il va avoir besoin. Donc est-ce d'accord. Que nous sommes une société d'adultes solides pour les entourer demain à l'école, à la maison, aux loisirs et dans tous les lieux qu'ils vont partager avec nous?
Et lui donner à s'exprimer donc aussi, hein, il faut verbaliser voilà. Hein, d'une manière ou d'une autre. Didier Matisse, on revient vers vous. Énormément, d'accord, donc c'est bien de le rappeler là tous les jours. Didier Matisse, secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire, je reviens vous voir avec une question. Évidemment, il y a les trains sur les rails, désormais, les transports fonctionnent. Comment ça se passe en coulisses, en quelque sorte? Toutes ces personnes qui sont là à œuvrer pour nettoyer les rames, pour nettoyer les wagons, à quel rythme, dans quelles conditions?
L'avantage que nous avons à la SNCF par rapport à d'autres entreprises, c'est que nous n'avons jamais cessé et arrêté la production. Donc, on a pu donc échanger, et l'UNSA Ferroviaire a été force de proposition pour mettre en place des fiches sanitaires et des fiches métiers pour s'adapter donc à ces nouvelles contraintes du fait du Covid-19. Mmh. Et l'ensemble de la production est remonté en puissance en intégrant justement toutes ces difficultés-là pour permettre depuis aujourd'hui une reprise qui se fasse de la meilleure façon et surtout dans un état sanitaire quasi irréprochable étant donné les différentes méthodes qui sont utilisées pour nettoyer les rames, notamment tous les soirs.
Tous les soirs, les matins, c'est ça.
Avant le départ. Même,
D'accord, les soirs tard, évidemment, quand les trains arrêtent de circuler. On se retrouve.
Et avec également une présence aussi à bord des trains d'agents de nettoyage pour parfaire cela et passer dans les trains tout le temps pour désinfecter l'ensemble des boutons, des rambardes, de tout ce que les clients touchent.
Bien sûr, évidemment, et vous faites bien de le rappeler. On va se retrouver dans un petit instant avec un siège sur deux, cette capacité réduite, on le redit aussi. On se retrouve dans un instant, et puis avec les auditeurs également à la veille de cette reprise, notamment pour les enfants à l'école. À tout de suite.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy. Nathalie, avec vos invités et les auditeurs d'Europe 1 en direct au 39-21 qui vous racontent leur 11 mai.
Oui, le 11 mai vécu par le secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire. On est sur les rails, on regarde les transports de près à la loupe même. Et puis la psychanalyste Sophie Marinopoulos à la veille de la reprise pour les enfants en classe. On est en ligne avec Sophie de Tours. Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes à Tours et vous êtes commerçante, vous, hein. Je vous avais repris donc aujourd'hui dans votre maroquinerie?
Oui, c'est ça, notre maroquinerie où nous devions fêter nos 30 ans en mars
Nous avons eu 30 ans cette année et donc on n'a pas pu fêter ça avec nos clients, mais bon, ça sera partie remise.
Exactement. Alors comment vous avez vécu cette reprise? Comment ça s'est passé? Du monde dans la boutique, etc.
Eh bien, ça s'est passé avec une petite appréhension par les équipes, et puis en fait tout s'est mis en place facilement, le marquage, etc. On a eu du monde et les gens étaient plutôt très respectueux des consignes, même en attendant devant la porte, même s'il n'y avait pas énormément de monde, en nous demandant s'il fallait qu'ils même on m'a téléphoné ce matin s'ils devaient apporter leurs propres gants, etc. Ouais. Parce que la maroquinerie, c'est du cuir, donc le gel hydroalcoolique, s'il est mal séché, ça peut faire des gros dégâts.
Bien sûr.
Donc, plutôt un grand respect, et j'ai trouvé vraiment un bon état d'esprit, des gens qui prennent leurs responsabilités. Ils sont tous venus masqués, donc j'ai pas... Voilà, à part une personne qui n'avait pas... Oui, jouer le jeu.
Donc, et vous y retournez demain avec le cœur un petit peu plus léger?
Eh bien... Oui, et alors demain, j'ai une deuxième boutique à Blois, la maroquinerie Galucha sur Blois, et donc demain, je vais faire l'ouverture à Blois qui ne travaille pas le lundi. Donc demain, on va être dans le 41, voilà, exactement.
D'accord.
Ça va être,
bon.
Mais bon, c'est plutôt bien passé.
Plutôt bien passé, très bien, on entend ça.
Ouais,
bon, écoutez, on vous souhaite plein de bonnes choses pour...
On m'avait dit que dans les Pays-Bas, les gens qui... ça, c'est un fournisseur qui m'avait dit ça, que les gens qui venaient acheter, c'était vraiment quand ils rentraient, ils achetaient. Moi, j'avais eu beaucoup de badauds et de gens qui prenaient plaisir à se promener.
D'accord.
Aussi. Et pas obligatoirement des achats.
Pas des achats, forcément.
Oui,
merci beaucoup. Merci Sophie, en tout cas, et bonne reprise donc à vous. Didier Mathis, secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire, petite question, un tout petit peu annexe, mais quand même qui intéresse particulièrement nos auditeurs. Peut-on réserver des billets de train SNCF là, aujourd'hui, par exemple pour le mois de juin?
Écoutez, je n'ai pas vérifié, mais normalement, oui, c'est possible avec le trafic qui est prévu donc pour le mois de juin. Mmh. La problématique aujourd'hui, c'est que on a toujours la barrière des 100 km qui est effective, donc ça limite grandement, notamment le transport via le TGV, parce que les distances sont bien supérieures à 100 km. Mmh. Donc à l'heure actuelle, le trafic est assez réduit encore sur les TGV, mais les réservations pour le mois de juin, normalement, c'est ouvert 2 mois à l'avance. Je suppute que c'est toujours d'actualité. Je n'ai réservé que pour le mois de mai, donc à vérifier quand même.
À vérifier quand même, on peut tenter, donc même si effectivement il faut toujours respecter ces 100 km. Modification d'horaire également, compte tenu de la reprise, mais d'une reprise qui n'est pas à 100%. Est-ce qu'il y a des modifications d'horaire et est-ce que les Français sont prévenus par SMS ou par mail globalement?
Aujourd'hui, ils ne sont pas prévenus parce que il y avait une fermeture au niveau des réservations. Mais il est bien entendu que le système que tous les voyageurs connaissent, c'est-à-dire quand vous réservez un billet de train et qu'il y a une modification soit de la composition du train ou soit de l'horaire, vous êtes prévenus par SMS ou par courriel.
Ouais. D'accord.
Oui, ça fonctionne toujours.
Ça fonctionne toujours. Sophie Marinopoulos, psychanalyste qui est avec nous également. Vous entendiez Sophie de Tours qui était plutôt optimiste finalement et presque enjouée après cette première journée. L'idée c'est quoi? C'est que on peut imaginer comme ça que les gens continuent à porter le masque et à avoir ce respect des gestes barrières, même si il y a cette normalisation. Avec les guillemets qui vont bien, entendez-moi. Avec les commerces ouverts, il y a forcément cette normalisation aussi qui revient dans les esprits. Mais on peut imaginer qu'on se discipline durablement.
Alors sur les gestes sanitaires, il me semble que en effet il y a véritablement une prise de conscience et un respect des gestes importants, fondamentaux, mettre le masque, se laver les mains, rester un peu à distance. La grande difficulté va être comment on va reprendre la vie ensemble, comment on va poursuivre, comment on va retrouver confiance en soi, en l'autre, comment on va réussir à regarder notre voisin sans imaginer qu'il est porteur d'une maladie telle qu'il va nous donner la mort. Comment est-ce qu'on passe de la méfiance à la confiance? Ça va véritablement être une grande question pour les semaines et les mois à venir. Comment aussi on va retrouver un élan vital? Parce que tout à l'heure, j'entendais bien par rapport aux enfants, c'est-à-dire qu'à la fois, on leur dit qu'ils peuvent jouer, mais
bien sûr,
sans arrêt, on va leur rappeler la règle, c'est-à-dire, oh là, tu cours avec ton copain, pas trop près, etc. Ouais, donc, ça, c'est des ruptures, ça fait effraction dans le désir de l'enfant. Ça fera, on aura exactement la même chose, certainement, nous, les adultes, d'une autre manière. Donc, comment est-ce qu'on va retrouver cet élan, ce désir, ce plaisir, en fait, tout ce qui fait la vie, en fait, bien notre sûr. Vie ensemble. Ça, c'est une question
c'est la
sur laquelle
question
on va pas jouer.
Merci.
C'est véritablement la question de nos liens.
Ouais. Je vais prendre un dernier auditeur rapidement, Philippe, qui nous appelle de Nantes et qui dirige une entreprise informatique. Bonsoir à vous. Vous m'entendez ?
Bonsoir Nathalie Lévy.
Bienvenue sur Europe 1.
Merci.
Vous allez, vous, normalement aussi chez le client ?
Oui, absolument. On a commencé à ouvrir la boutique ce matin, donc ça s'est bien passé parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Par contre, ma crainte, c'est de savoir comment ça va se passer chez le client, et là, on attaque demain. Et là, on verra bien. De toute façon, il faut y aller. Donc, nous, on a masque, on a gel, mais bon, j'espère que les clients vont respecter ça. Et
Vous, le protocole, c'est quoi ? C'est de vous déchausser, effectivement, de laisser vos affaires à l'entrée et évidemment.
Non, déchausser, non, très franchement, non.
D'accord.
Les gants et nettoyer, voilà, gants, masques, gel, et nettoyer dans la mesure du possible les claviers qui sont, on le sait déjà, hors Covid. On savait déjà que c'était un nid à bactéries. Et donc,
Donc ça, c'est la charte du bon informaticien. Après, il faut qu'il y ait la charte du bon client qui, chez lui, joue le jeu aussi.
Oui, les bons clients, mais on les connaît. Enfin, moi, on est content de les avoir au téléphone, de reprendre des rendez-vous. Donc, il faut quand même avoir ça en tête, de dire que les clients ont la chance d'exister depuis pas mal d'années. Donc, ils nous connaissent bien. Donc, c'est quand même avoir ce réflexe de distanciation, de dire attention, on est content de vous revoir, mais on se calme et on reste à distance. Mais on va faire ça, je pense, intelligemment. Bon. On maîtrisera moins que chez nous. Chez nous, on a mis vraiment tout en place pour garantir une sécurité. Chez le client, je pense que la plupart de nos clients ont dû faire la même chose. Donc, on le verra et il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Mais
bah
ça fait plaisir de pouvoir sortir sans rien signer, sans rien. Ça fait bizarre ce matin. Je me dis, je n'ai rien à signer ce matin pour sortir de chez moi.
On est un tout petit peu plus léger, mais quand même pas tant que ça. Merci beaucoup, Philippe de Nantes. On vous souhaite bon courage aussi. Et puis, il faut être précautionneux pour les gens qui vous ouvrent leurs portes et qui ont besoin de vos services, parce qu'il ne faut pas, évidemment, qu'ils ramènent le virus dans votre entreprise. On a besoin, on l'a vu, ô combien dans cette crise, combien les technologies et les nouvelles technologies étaient essentielles. Merci à vous tous. Merci à ceux qui nous ont accompagnés aussi ce soir, nos spécialistes, notre psychanalyste Sophie Marinopoulos et Didier Matisse, secrétaire général de l'UNSA Ferrovia. Merci à tous les deux. Merci pour cette première journée déconfinée. Merci pour cette reprise avec vous. Voilà, demain en France, c'est ça aussi. Le monde qui change, c'est Europe 1. Avec les applaudissements, on les attendait. Regardez, ils sont là. Eh oui, ils sont là malgré ce déconfinement. Et ça, c'est une très belle nouvelle. On les laisse vivre un petit peu. Et on retrouve Emily. 20h musique avec elle. Avec ce soir un hommage à Little Richard et le concert d'Elton John au Madison Square Garden en 1974. Ça ne nous rajeunit pas. Salut Emily, belle émission à vous. Et on se dit à demain. Europe 1, 18h-20h, votre grand journal du soir. Très belle soirée à tous. Je vous embrasse.
C'était Nathalie Lévy, il est 20h sur Europe 1.